Ici, nous on slame. On slame pour la paix ou on slame pour partager. Rénarrer les histoires formatées et celles non racontées, slam en ciment destiné au chantier de nos espoirs désenchantés.
Réparer les mots, c'est le projet de Goma Slam Session, un collectif de Goma, une ville située au nord Kivu, en République démocratique du Congo. Une région en proie depuis des années à des guerres à répétition et à une insécurité grandissante. Alors, face au chaos, le collectif propose depuis 2017 des activités de création, de diffusion et de sensibilisation grâce au slam. Des slams dont les textes ont été en partie rassemblés dans un recueil, Slamé pour résister, une anthologie du slam à Goma. Il est édité chez Africae et c'est vous, Maëline Lelay, qui en assurez la direction. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheuse au CNRS en littérature africaine. La question des arts engagés, c'est un sujet qui vous intéresse depuis longtemps.
Oui, depuis plusieurs années. Ça a d'abord commencé avec la question de la littérature populaire, puisque j'ai réalisé ma thèse au Congo, déjà en RDC, au Katanga, sur la question d'une littérature populaire. Et j'ai très vite extrait la question du discours didactique dans le théâtre. Et ce qui m'intéressait, c'était la manière dont les artistes de théâtre, et les écrivains aussi, se donnaient une ambition en fait, sociale et de rénovation sociétale à travers leur art. Et donc, la question de l'art engagé, elle découle en fait de cet art à vocation sociale qui est quasiment l'ADN en fait de l'expression artistique, notamment verbale en RDC.
Alors, comment le slam est arrivé dans votre parcours de chercheuse ?
Alors, je dirais par le plus beau des hasards d'une rencontre, comme c'est souvent le cas. J'ai rencontré ce collectif de slammeurs, Goma Slam Session, alors que je faisais un terrain de recherche, donc en littérature, entre 2018 et 2021. Dans la région des Grands Lacs, entre le Kivu, Nord Kivu, Sud Kivu, en RDC, puis le Rwanda et le Burundi. Et donc, j'ai très vite vu que le slam avait occupé en fait une place importante sur la scène artistique de Goma. Et puis, le slam étant une forme de poésie mise en bouche, j'ai décidé de m'y intéresser parce que c'était un véritable phénomène.
Alors justement, pourquoi est-ce que vous avez voulu poser par écrit cet art oral ?
Alors, parce qu'en fait, c'est en effet un art oral, mais c'est un art qui est d'abord écrit et même très écrit. C'est-à-dire que si le slam a vocation à être diffusé à l'oral, donc soit dans des joutes ou aussi par le biais des enregistrements, il est d'abord très écrit. Et c'est ce que j'ai pu constater lorsque j'assistais aux répétitions, aux sessions slam du collectif Goma Slam Session. Les slameurs venaient avec leurs papiers, leurs crayons et recorrigeaient, renotaient, réécrivaient leur slam aussi au gré des remarques de leurs comparses slameurs. Et d'ailleurs, cette anthologie, elle témoigne aussi de ce bouger entre l'écrit et l'oral. Et donc, il me semblait que c'était une manière de redonner la place de l'écrit au slam, d'une part. Et d'autre part, il était aussi question pour moi de donner un plus large accès à ce style qui est, enfin, à ce genre qui est un genre littéraire, puisque le slam à Goma, il est diffusé à un niveau régional, mais peut-être pas tellement au-delà. Et donc, l'idée, c'était, en le publiant chez Africae, de lui donner une forme de légitimité, finalement, littéraire, en plus d'une visibilité élargie.
Alors, ce recueil, il recense une trentaine de slams, écrits par des membres du collectif Goma Slam Session, comme je le disais tout à l'heure. J'imagine que vous avez dû faire le tri parmi toutes les productions du collectif. Quels étaient les critères de sélection, brièvement ?
Moi, de mon côté, j'étais particulièrement frappée en fait, par la place de la guerre dans les slams que j'entendais. Donc, il était question que ce recueil reflète autant que possible la diversité des slams du collectif dans lesquels la guerre occupe une place importante. Mais ensuite, on voulait aussi que les slams d'amour, par exemple, puissent être représentés, des slams religieux également, des slams plus proches du rap. Donc voilà, c'était vraiment refléter la variété, avec la variété des genres de slams, avec un focus particulier sur le thème de la guerre.
Alors celui-ci est de Ben Kamountou, on en a déjà entendu un très court extrait au début de cette émission, et il ouvre cette anthologie du slam à Goma.
Oui, comme les oiseaux des mêmes plumages qui volent et brisent la cage ensemble, on slame. On slame nos ressemblances, on slame nos différences, on fait face à la violence, à l'extravagance. Au-delà de murs de prison, au-delà de murs de l'engaïmanie, au-delà des murs des tribus, au-delà des murs des ethnies, on slame ici pour que chacun retrouve sa meilleure version. Chez nous, ça ne fait pas défaut qu'on soit tous des champions, et la preuve, c'est notre collectif. Goma Slam Session.
Un extrait de Ici, nous, on slam. Alors, l'auteur de ce slam, c'est le cofondateur avec De Paul Bakoulou du Goma Slam Session. C'est un personnage important de la scène culturelle gomatracienne, hein, Maëline.
Oui, tout à fait. Il est cofondateur, et donc il est aussi sans doute un des premiers à avoir publié son album Vie ou Vice, qui a obtenu le prix Macomi de la littérature européenne en 2022. Par ailleurs, il a aussi obtenu un prix récemment en Belgique, où il réside actuellement, le prix Solidar Hub, pour son projet La Poésie pour penser et penser, PAN, le monde, par Enabel, qui est la coopération belge.
En fait, dans ce slam, il pose ici en quelque sorte les principes du collectif. Alors Maëline, on va revenir dans quelques instants sur le Goma Slam Session et sur ses membres, mais pour l'instant, on quitte Goma et on part à plus de 6000 km. C'est la chronique ailleurs. Ailleurs, à Berlin, cette semaine, où la Maison de France fête ses 75 ans. Avec nous pour en parler, Sophie Coumel. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la directrice de l'Institut français de Berlin, un institut qui se trouve donc au sein de cette Maison de France et qui accueille également un cinéma et une brasserie. La Maison de France est donc un lieu qui est chargé d'histoire et qui a joué un rôle central dans le rapprochement franco-allemand.
Effectivement, puisque c'est un grand réseau dont fait partie l'Institut français de Berlin, l'Institut français d'Allemagne, qui a en soi, on va dire, plus d'une dizaine d'antennes sur tout le territoire allemand. Cet institut, donc, a été emblématique du rapprochement franco-allemand dès sa création en 1950, donc pas très longtemps finalement après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et l'idée était bien d'implanter au cœur de Berlin-Ouest un lieu ouvert à la culture française, à la langue française, mais aussi de favoriser le rapprochement entre les cultures allemandes et françaises, et c'est aussi dans ce sens-là que nous travaillons encore aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est un lieu auquel les Berlinois sont tout à fait attachés, c'est un lieu de cours de français, on y trouve une médiathèque, comme vous l'avez dit aussi, un cinéma, un restaurant, dans un esprit aussi un peu années 50 au niveau des locaux. Il est bien installé dans le paysage culturel de Berlin.
Alors la date officielle de l'anniversaire, c'était le 21 avril dernier, mais vous avez prévu de célébrer ces 75 ans tout au long de l'année. Est-ce que vous pouvez nous dire quels vont être les temps forts de votre programmation culturelle ?
Je vais vous présenter peut-être davantage ce qu'on va faire au mois de mai et de juin. On aura l'occasion d'accueillir le prix Goncourt 2023, Jean-Baptiste Andrea. Ce sera le 12 mai pour une lecture de Veiller sur elle à l'occasion de la traduction en allemand de cet ouvrage. Ensuite, le 15 mai, eh bien, nous accueillerons pour une soirée un peu particulière le réalisateur Wim Wenders pour la projection des Ailes du désir au cinéma Paris. Donc là, ce sera évidemment un grand temps fort de ces 75 ans.
Qui est suivi d'un temps d'échange avec le cinéaste, hein, c'est
ça ? Oui, tout à fait, qu'on est ravis de retrouver. Le mois de juin est toujours un mois assez festif, mais on voulait cette année aussi rendre hommage, puisque c'est les 80 ans de la fin de la Seconde Guerre mondiale, on voulait rendre hommage à cette période historique terrible, mais qui nous a tous beaucoup marqués et qui a marqué l'histoire des instituts. Et on va accueillir Hélène Camarade, qui est une historienne, qui collabore régulièrement ici avec le Centre Marc Bloch, qui a publié un ouvrage sur les femmes allemandes dans la résistance. Donc ça, ce sera le 11 juin. Et nous aurons ensuite à l'occasion de la fête de la musique. Alors cette année, une manifestation tout à fait particulière. Nous accueillerons un bal voguing en partenariat avec la Gaîté Lyrique à Paris. Donc un bal voguing unique le 21 juin à la Maison de France, ici à Berlin.
Et toutes ces rencontres sont gratuites ?
La plupart sont gratuites. On a choisi volontairement d'avoir une politique tarifaire très modérée, donc il faut regarder sur le site pour se renseigner. Mais oui, il y a une grande partie des manifestations qui sont gratuites, en effet.
Eh bien, bon anniversaire, Sophie Coumel. Tous à vos agendas, donc.
Merci.
Qu'y a-t-il après la mort ? Hey Joe, qu'y a-t-il après la mort ? Pas grand-chose, pas que je sache, ou presque rien, à peine plus, un souffle. Souvenir. Hey Joe, qu'y a-t-il après la mort? Qu'y a-t-il après l'effort? Pas grand-chose, trois fois rien, mise en bière, une prière, c'est la fin. Un goût de terre, du chagrin. Hey Joe, qu'y a-t-il après la mort? Après l'effort, pas grand chose, trois fois rien, pas que je sache, pas qu'il sache, pas qu'on sache, toujours rien. Hey Joe, qu'y a-t-il avant la mort? Qu'y a-t-il pendant l'effort? Qu'y a-t-il dans mon décor? Un tas de choses, autant que je sache, presque tout, ou à peine moins. Mes amours, mon avenir, les factures à payer, le plaisir, pas toujours, ma jeunesse, du désir, désespoir, ma fatigue, ta vieillesse, mon ciel bleu, un peu de tendresse, mon soleil, son ivresse, l'inconnu.
Par O2N dans Deux Vives Voix sur RFI. Nous sommes toujours en compagnie de Maëline Lelay, chercheuse au CNRS en littérature africaine et directrice de collection aux éditions Africae, qui vient donc de publier une anthologie du slam à Goma. Maëline Lelay, le slam, c'est un genre artistique qui est très représenté sur le continent africain. Comment est-ce que vous expliquez qu'il ait un tel écho auprès de la population ?
Alors, je vais surtout parler de Goma, puisque c'est le contexte que je connais le mieux. Les slameurs expliquent qu'ils ont grandi dans un pays où la parole publique autorisée est réservée à certains, qui disposent d'un certain statut, donc d'une autorité. Donc, ça peut être, bien sûr, des religieux, des politiques, des maîtres d'école. Et le slam a ceci de singulier, et sa parole et sa puissance est d'autant plus notable que les slameurs proposent en fait une parole complètement libre. Donc, slam qui veut, s'empare du micro qui veut, qui a déjà un texte. Et c'est finalement cette sorte de subversion de la parole publique, qui, à mon sens, explique l'importance du slam et le succès que rencontre le slam à Goma. Les slameurs s'inscrivent vraiment en faux contre cette éducation qu'ils ont reçue et la manière dont la société congolaise est structurée, c'est-à-dire de manière extrêmement hiérarchique, avec certains qui parlent et d'autres qui écoutent.
Alors, on évoquait tout à l'heure le profil de Ben Kamuntu, l'un des membres fondateurs du Goma Slam Session. C'est aussi un membre très actif au sein de la Lucha.
Oui, tout à fait. Il est un des cofondateurs avec Ben, avec Depaul Bakoulou, pardon. Ils sont cofondateurs, mais ils sont aussi membres de La Lucha avec bien d'autres slameurs du collectif.
La Lucha, qui est un mouvement citoyen non violent et non partisan, qui lutte pour la justice sociale et la dignité humaine en RDC.
Tout à fait, La Lucha, donc la lutte pour le changement. Et en fait, ce qui est très intéressant dans Goma Slam Session, c'est que la fondation de Goma Slam Session est étroitement liée à la fondation de La Lucha. En fait, elle s'inscrit, le collectif s'inscrit dans le sillage de La Lucha. Ils sont nés de manière quasiment concomitante à quelques années d'intervalle. Et les principes de fonctionnement du collectif Goma Slam Session sont en fait calqués directement sur les principes de fonctionnement de La Lucha, c'est-à-dire un fonctionnement horizontal.
Alors justement, quelles sont les actions de ce collectif, le Goma Slam Session ?
Eh bien donc, tout comme la Lucha cherchait à mobiliser les citoyens par des actions de civisme, le collectif Goma Slam Session va lui aussi intervenir auprès d'un certain nombre de groupes, de communautés ciblées parce qu'elles sont vulnérables. Alors, essentiellement la jeunesse, mais ça peut aussi être
les
filles isolées, les femmes, etc. Et leur proposer des ateliers de slam, parce qu'ils sont sûrs que la parole a ce potentiel émancipateur, finalement. Et c'est en effet ce dont témoignent les stagiaires qui suivent ces ateliers de slam, et dont certains et certaines, après, deviennent eux-mêmes et elles-mêmes des slameurs en intégrant le collectif. Hein. C'est le cas d'un certain nombre d'écolières, notamment, ce qui n'est pas rien dans un pays où la parole, non seulement des jeunes, mais aussi des filles, peut être difficile à être énoncée, en fait, publiquement.
Et puis, il y a de la sensibilisation dans les écoles aussi. Hein.
La sensibilisation dans les écoles, des ateliers de slam dans les prisons également.
Donc un slam citoyen. Ça donne aussi un slam souvent très engagé, avec une envie forte de dénoncer les atrocités et les injustices vécues par les populations.
Je m'appelle Benny. Je suis l'une des filles du grand Kivu. Je suis démunie de sang, de vie et de tout ce qui vaut. À l'est du Congo Kinshasa, mon sol tout vert se désertifie. Par les meurtres et par les massacres, une souffrance atroce qui s'intensifie. Tous ceux que je regorge disparaissent peu à peu à cause de ce déluge. La douleur sèche ma gorge. Mes cris et mes pleurs n'ont plus aucun refuge. Chaque nuit dure encore et encore, beaucoup plus longtemps que la mort. Des spectres insensibles en renfort, tueurs semblables sans aucun remords. Ils égorgent mes filles toutes nues et découpent mes fils à la machette. Ils obligent les enfants à garder le souvenir de leur père appuyant sur la gâchette. Après la mort de la pauvre mère, le père s'avance afin de servir de brochette. Et derrière toute cette tue ma mère, il y a tous ces hommes sapés en chemise à boutons manchettes. Au moins je suis sûr d'une chose, je suis béni et je ne suis pas maudit.
Henri Mubimbi dit le griot parleur avec ce slam « Je ne suis pas maudite ». Est-ce que vous pouvez nous parler de ce slam, Maëline Lelay ? Qu'est-ce qu'il raconte ?
Alors ce slam parle de la guerre, comme donc un certain nombre de slams de l'anthologie, puisqu'il faut bien se rendre compte que le slam à Goma se crée, se performe, s'énonce sur fond de rumeurs de la guerre. Et donc là, je ne suis pas maudite, et il parle de la ville de Beni, qui se trouve au nord Kivu, et qui a été, qui est toujours une ville martyre de cette guerre qui perdure à l'est du Congo depuis une trentaine d'années. Donc voilà, ce slam, il reflète le fait que les slameurs se vivent comme des enfants de la guerre. Ils le disent, hein, c'est une expression qu'ils utilisent, qui est aussi utilisée par La Lucha. Ils sont nés dans les années 90 ou les années 2000. Donc ils sont nés dans la guerre, ils ont grandi dans la guerre. Et pour eux, le slam, pour beaucoup d'entre eux, le slam, c'est une possibilité, et là je vais reprendre l'expression de Ben Kamuntu, de sculpter un Congo nouveau avec d'autres mots.
Et puis on sent aussi le plaisir de la langue, hein, de jongler avec les mots « béni » comme le nom de la ville et donc pas « maudite ».
C'est ça. Et je me souviens avoir assisté à une performance de ce slam dans un bar de Goma et le public était... était aux anges. Enfin, c'était vraiment, tout le monde acclamait le slammer, qui est par ailleurs lui-même un artiste complet, je dirais, de Goma. Il est aussi humoriste, il fait du stand-up, comme un certain nombre d'entre eux qui ont plusieurs cordes à leur arc.
Dans cette anthologie, il y a aussi des textes dans lesquels plusieurs langues sont entremêlées. Lesquelles ?
Alors, on trouve essentiellement du swahili, donc le recueil est donc très majoritairement écrit en français, hein, mais entrelardé de quelques phrases qui scandent en fait le texte, un peu le slam, un peu la manière d'un refrain. Hein. Essentiellement en swahili, qui est la langue véhiculaire hein, de tout l'est du Congo et des Grands Lacs en général. Également du lingala, qui est bien sûr une langue très très parlée en RDC, même si un peu moins à l'est, mais néanmoins largement pratiquée. Et puis un petit peu d'anglais également.
On ne dit pas la même chose en fonction de la langue qu'on utilise ?
Alors oui, en effet, on ne dit pas la même chose en fonction de la langue qu'on utilise. Là, notamment, je pense à un slam de Paul Bakulu, Hakuna Kongo Bila Beni, il n'y a pas de Congo sans Beni en swahili, qui en fait était à l'époque hein, de l'écriture de ce slam dans les années 2018, 2019, 2020, un véritable slogan qui était repris aussi par les militants de la Lucha, qui protestaient contre l'état de guerre perdurant à l'Est. Et donc, ça devenait une sorte de slogan de protestation.
Qu'est-ce qu'on dit plus facilement dans son dialecte qu'en français, par exemple ?
On peut dire sans doute des expressions un peu plus personnelles, mais pas trop non plus, parce que la pudeur empêche aussi de dire certaines choses trop intimes dans la langue maternelle. Et dans ces cas-là, on choisira le français. On dira plutôt des expressions effectivement idiomatiques et des expressions qui sont de l'aveu des slameurs, peut-être plus difficiles à rendre en français parce qu'elles existent en tant que telles finalement dans la parole quotidienne.
Et puis dans cette anthologie, il y a des textes très durs, je pense notamment à 20h07 de Yves Kalouira. Je vais le recontextualiser, il est 20h07, un homme marche seul dans la rue, il fait nuit et il croise sur son chemin une petite qui a l'air terrorisée par ce qu'elle vient de vivre et elle lui raconte son histoire.
Tout s'est passé le même soir sur son territoire. À la recherche de bois, elle venait de quitter la buisson. Arrivée chez elle quelques minutes après, ce sont les bandits qui font incursion. Et malheureusement, l'opération a commencé dans sa maison. Il est tard, personne ne peut se sauver. Pour sa mère, le pressentiment est très mauvais. Tout ce qu'elle réussit à faire, c'est de mettre la petite sous un panier. Elle lui dit de ne pas crier. Malgré tout ce qu'elle verra, ça sera la seule façon de l'épargner. Dès là, elle peut tout voir. Sans être vie, et c'est ce qui la traumatise. Comment est-ce qu'ils ont pu violer sa maman en présence de son mari? Ça lui terrorise, il ne peut plus résister. Il saute brutalement sur celui qui viole sa femme. Ça va faire mal, il est conscient qu'il se jette dans la gueule du loup. Mais que faire? Tout homme placé dans sa circonstance n'encaisserait jamais ses coups.
C'est absolument terrifiant, d'autant que la suite est tragique. Les parents se font tuer sous les yeux de la pauvre petite. Le sang, le viol, la machette, il y a beaucoup de détails. Le slam permet de dépasser les traumatismes, Maline Lelay.
C'est du moins ce qu'espèrent un certain nombre de slameurs, dont justement Ben Kamuntu, hein, qui propose ce projet de slam pour penser PANSER, le monde. Et c'est aussi ce que revendiquent d'autres slameurs dans le recueil. Je pense aussi à Ghislain Kabouyaya, qui a coécrit l'introduction avec moi. Et je tiens d'ailleurs à signaler que cette anthologie est une œuvre collective, hein, puisque je suis la directrice de cette collection Africa et Gems, mais nous avons, avec le collectif de slameurs, et quatre d'entre eux en particulier, collecté ensemble les textes et nous avons décidé ensemble de l'ordre également d'apparition.
Donc cette fonction cathartique, les membres du Goma Slam Session y croient. La preuve, ils proposent aussi des ateliers de slam thérapie.
Tout à fait. Donc ils proposent ces ateliers de slam thérapie. De slam thérapie, ce sont les ateliers dont nous parlions hein, dans les écoles ou auprès notamment des populations les plus victimes de la guerre, à savoir des filles pour la plupart violées. Vous avez aussi vu que le viol occupe malheureusement une place importante dans le Dans le recueil, c'est un fait de guerre. Hein. Et donc, en effet, pour eux, le slam est un moyen d'exprimer les souffrances vécues et par là peut-être de les dépasser par la jubilation qu'il y a à pouvoir jouer des mots et à pouvoir se performer sur scène et à pouvoir aussi être ensemble. Hein. Le slam sert de lien social entre les slameurs, avec le public et les slameurs ne faisant qu'un. Ils insistent beaucoup sur cette cohésion. En fait, le slam permet une cohésion qui est à l'image de la cohésion sociale, sociétale, qu'ils appellent de leur vœu.
Alors, heureusement, il n'y a pas que des slams pour décrire l'horreur. Le slam peut aussi servir à s'évader. Certains parlent aussi d'amour. C'est important pour vous d'élargir la palette, de représenter différents thèmes qui habitent justement les hommes et ces femmes de Goma, malgré les épreuves terribles qu'ils traversent.
Oui, c'était important parce que je pense que c'est un tout et que quand on parle d'amour ou bien quand on fait de l'humour aussi dans le slam, c'est aussi une manière de répondre à une situation que l'on vit, qui reste une situation de guerre latente. Et cela, de nouveau, les artistes le revendiquent. Hein. Je pense notamment, je viens de le citer à Ghislain Kabouyaya, son slam Doctoresse, qui faisait hurler de rire le public de Goma, qui le demandait, qui le redemandait à chaque manifestation. Et on lui posait la question, mais pourquoi fais-tu de l'humour tant dans tes slams que dans tes pièces de théâtre? Et il répondait, parce qu'on a trop pleuré. On a déjà trop pleuré. Et donc, il faisait des pièces d'amour dans lesquelles l'humour était, et parfois un humour assez potache, était présent. De la légèreté.
Ça fait du bien.
Et tout ça fait partie du tableau de Goma. Les gens continuent à vivre et à s'aimer à Goma en dépit de la situation de guerre.
Et puis, on slame aussi pour célébrer les héros, même ceux dans l'ombre.
Ces femmes qui donnent vie à la ville. Chaque matin qu'il fait froid ou chaud, ils sont au champ. Ces hommes qui traversent des kilomètres sur vélo avec quelques marchandises. Ils pensent qu'ils les font pour leurs propres enfants et ignorent que c'est pour tous les enfants du monde. Ces jeunes qui bossent durement afin que le soir la famille trouve du pain. Ces militants qui luttent et croient au rêve d'un Congo nouveau. Ces soldats qui meurent avec fierté sur nos lignes de front. Ces slameurs qui organisent des rendez-vous autour des monts. Cet enseignant qui s'époumonne et prépare une leçon pour le Congo de demain. Ces personnes qui colorent leur vie, ces gens qui donnent sens à notre vie, ils pensent qu'ils le font pour eux-mêmes et ignorent que c'est pour toute l'humanité. Ils sont des
héros dans l'ombre, héros, héros dans l'ombre.
Ils sont des
héros dans l'ombre, héros, héros dans l'ombre.
Aga, ils sont des
héros dans l'ombre, héros, héros dans l'ombre.
Ils sont des
héros dans l'ombre, héros, héros dans l'ombre.
Héros dans l'ombre de Elisha Abumba. Qu'est-ce qu'il dit ce slam, Maëline Lelay?
Alors ce slam, il rend hommage aux acteurs du quotidien, que sont ces hommes, ces femmes, ces enfants qui font tout type de métier et qui participent à rendre la vie de tout un chacun possible. Et c'est un slam important parce que c'est peut-être un endroit où Goma Slam Session se distingue un petit peu de la lucha qui a tendance à vouloir trouver des héros hein, et peut-être canoniser certaines figures en héros. Et là, en fait, ce slam, sur le modèle un petit peu, parce que c'est inspiré de cela, sur le modèle de ce slam de la poétesse slameuse anglaise Kay Tempest, Brand New Ancient, il célèbre les héros du quotidien. Et donc, il célèbre les slameurs et il célèbre tout un chacun.
Et puis, il a une histoire un peu particulière. Est-ce que vous pouvez nous la raconter?
Oui, c'est un slam qui a clôturé la performance de Goma Slam Session au grand festival international de Goma, festival de musique qui s'appelle Amani La Paix, en Swahili, qui existe depuis 2013 et qui s'est fait presque tous les ans, sauf les dernières années, à cause de la guerre. Et donc, ils ont clôturé leur performance par ce slam qui, comme vous l'avez comme vous l'avez entendu, hein, est un slam en fait très inspiré de la rumba congolaise et qui swing et donc et qui en fait a permis à tous les slameurs de se retrouver sur scène, de danser, de chanter et donc d'incarner finalement ce lien social que représente le slam.
Merci Maëline Lelay. Je rappelle que votre anthologie du slam à Goma, Slammer pour résister, est publiée aux éditions Africae. De vive voix, Lucie Bouteloup avec à la programmation Cécile Lavolo et Laura Pinto à la réalisation. Vous pouvez nous retrouver sur les plateformes et sur l'application Pure Radio. À demain. Et d'ici là, portez-vous bien.
Héros dans l'ombre.